petit matin, le soleil qui tout saute et crache ses poumons. Au bout du petit matin, un petit train de sable, un petit train de mousseline, un petit train de grains de maïs. Au bout du petit matin, un grand galop de pollen, un grand galop d'un petit train de petite fille, un grand galop de colibri, un grand galop de dague pour défoncer la poitrine de la terre.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Les yeux ont des oreilles pour ce 50e épisode, en compagnie de Lydia, Emma et Nathanaël, moi-même, toutes trois en prémaster de lettres modernes. Nous vous proposons chaque semaine une traversée de textes mis en voix et de créations sonores autour de grandes thématiques que vous pourrez découvrir sur le site de Transistor. Après une très longue pause de près de 2 mois, nous voilà enfin de retour pour un épisode consacré aux dominations coloniales, d'un monologue de Caliban dans La Tempête de William Shakespeare interprété par Lydia, au récit de la traque d'un roi africain par les armées coloniales françaises dans Les derniers rois mages de Maryse Condé, dont il s'agira pour moi de vous faire la lecture. Deux voix d'opprimés, donc, en serrant ainsi deux textes interrogeant la perspective des puissants, le premier mis en voix par Lydia, Fragen eines lesenden Arbeiters de Bertolt Brecht, mettant en cause la fabrication de l'histoire du point de vue de la domination par invisibilisation systématique des prolétaires et des esclaves, le deuxième vous étant proposé par Emma, la colonisation du Congo par le royaume de Belgique, dans Congo d'Éric Vuillard. Nous vous souhaitons une belle écoute et vous laissons tout à vos yeux et surtout vos oreilles.
All the infections that the sun sucks up from bogs, fens, flats on Prosper Fall and make him by inch meal a disease. His spirit hear me, and yet I needs must curse. But thou nor pinch, fright me with urchin shows, pitch me in the mire, nor lead me like a firebrand in the dark out of my way unless he bid em. But for every trifle are they set upon me, sometime like apes that mow and chatter at me and after bite me, then like hedgehogs which lie tumbling in my barefoot way and mount their pricks at my footfall. Sometime am I all wound with adders who with cloven tongues do hiss me into madness.
Moi aussi, j'ai assassiné Dieu. De ma paresse, de mes paroles, de mes gestes, de mes chansons obscènes. J'ai porté des plumes de perroquet, des dépouilles de chats musqués. J'ai lassé la patience des missionnaires, insulté les bienfaiteurs de l'humanité. Défié Tyr, défié Sidon, adoré le Zambèze. L'étendue de ma perversité me confond.
Fragen eines lesenden Arbeiters. Wie erbaute das siebentochige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt und das mehrmals zerstörte Babylon? Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die Maurer? Das große Rom ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüten in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die ersaufenden nach ihren Sklaven. Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war. Weinte sonst niemand? Friedrich II. Siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer siegte außer ihm? Jeder Seite ein Sieg. Wer kochte den Siegeschmaus? Alle 10 Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Spesen? So viele Berichte, so viele Fragen.
À force de penser au Congo, je suis devenu un Congo bruissant de forêts et de fleuves, où le fouet claque comme un grand étendard, l'étendard du prophète, où l'eau fait l'écou Allah, l'écou Allah, où l'éclair de la colère lance sa hache verdâtre et force les sangliers de la putréfaction dans la belle orée violente des narines.
Éric Vuillard, Congo, Toast. Soudain, un immense frisson parcourut le monde. Personne ou presque ne le sentit. Pourtant, il irradia les corps, les âmes, les longues chevelures, les ossements. La vague submergea tout. Pas un seul petit morceau de terre ne fut épargné. Les choses n'ont pas de prix. Elles roulent hors d'elles-mêmes comme un long sanglot. Il y a une espèce d'étoile au-dessus du monde. Elle indique une crèche en Afrique. Les rois mages se sont mis en route pour aller voir le nouveau-né. Ce n'est pas pour se mettre à genoux qu'ils y vont. Ils ont bien quelques cadeaux à offrir, mais de la verroterie. Non. Les rois mages ne vont rien donner. Ils vont prendre. Émus de voir l'étoile, ils partent une nuit. Ça faisait des siècles qu'ils attendaient ça. Depuis le début des temps, chaque homme attendait ça. La Mésopotamie l'avait attendu. L'Égypte l'avait attendu. Les Phéniciens l'avaient cherché au-delà des colonnes d'Hercule. Les Grecs l'avaient cherché jusqu'à l'Iphase, les Romains l'avaient cherché jusqu'au Danube, les Arabes jusqu'à Poitiers, les Mongols aussi l'avaient cherché très loin, et avec eux tant de peuples. Mais voici que soudain, l'étoile se lève. On la voit bien, elle est là, au milieu de nous. Nos désirs pendent à elle, notre soif est intacte, le chemin est là, évident, possible. Il va nous mettre au monde. Alors, tous les pays d'Europe ont tapé dans leurs casseroles. Ils ont sauté la haie. L'étoile filait devant eux de toutes parts, à l'est, à l'ouest, au sud. L'étoile devenait folle. Je ne réussirai jamais à la suivre, se disait-on, mais on la suivait. Et où que l'on alla, il y avait une nouvelle terre. Où que l'on alla, les peuples avaient économisé pour nous pendant des siècles. Ils avaient tout économisé. Leur caoutchouc, leur sucre, leur café, leur force, leur femme, leur vie. Oui, tout était à nous. Tout. C'est incroyable. Le cœur est ainsi fait. Quand il plane, il est beau. Il est pur, il sent bon. Mais dès qu'il se pose, il pue. Ah. On saurait maintenant que le verbe ne s'est pas fait chair. Il s'est fait caoutchouc, tabac, charbon. Il s'est fait directorship de banque, de compagnie, de chemin de fer, d'industrie, financier, breloque, pignouf, roi du Congo. Oui, partout, il y avait quelque chose de plus grand et de meilleur, de plus beau, de plus désirable. Papillon noir, forêt, un champ de coton, et la vague venait tonner entre les fentes de pierre.
Moi, sur une route, enfant, mâchant une racine de canne à sucre. Traîné, homme, sur une route sanglante, une corde court.
Maryse Condé, Les derniers rois mages. Les cahiers de Djéré, numéro 7. L'incendie d'Abomey. Le 4 novembre 1892, les colonnes du général Dodds étaient entrées dans Cana, la ville des champs de palmiers à huile, et avaient massacré tout ce qui vivait. Le bruit de cette tuerie avait couru jusqu'à Abomey, distante d'un jour de marche à peine, et mon père s'était rappelé ce que ces Bokonos voyaient et répétaient depuis plusieurs jours. Le temps marqué pour la fin était venu. Alors, il avait enlevé de son abri dans la terre les restes mortels de son père et les avait transportés dans un lieu sûr qu'il n'avait indiqué à personne. Puis, il avait passé la journée en prière tout en faisant brûler de l'encens dans les jarres. Enfin, il avait pris sa décision. La nuit venue, tandis que les soldats et les Amazones s'en allaient comme il l'avait commandé allumer l'incendie aux quatre coins d'Abomey, il mit de sa propre main le feu à la demeure qu'il tenait de ses ancêtres. Cette demeure était protégée par une énorme muraille de terre, percée de deux entrées dont l'une était exclusivement réservée au roi et à ceux qui marchaient avec lui. À l'intérieur de cette enceinte, depuis 10 règnes que notre dynastie était sur le trône, chaque souverain avait ajouté son palais à celui de ceux qui l'avaient précédé, ce qui fait que cette demeure couvrait un espace considérable. On aurait pu facilement y loger la pointe et tous ses habitants. Les différents corps de bâtiments qui la composaient, les quartiers des femmes, des ministres, des guerriers, des prêtres, étaient couverts de paille sèche, posée sur une charpente en nervure très droite de palmier raffia. Une torche à la main, mon père se hissa sur son trône en bois de fromager qui reposait sur 4 crânes de chefs ennemis, se dressa de toute sa hauteur et essaya d'embraser la paille. Le feu commença par hésiter devant le sacrilège qu'on lui demandait de commettre, et s'abritant d'une épaisse fumée noire, poussa une série de soupirs comme s'il s'efforçait de se retenir. Quand même, la voracité fut la plus forte. Il finit par dérouler son corps lové en anneaux et balancer sa tête plate et triangulaire aux énormes yeux de chat. Pendant quelques instants, il se contenta de lécher voracement la paille jusqu'à ce que, ne pouvant plus résister, il se jette sur le toit et cloisonne le mobilier pour en faire une seule bouchée. Alors mon père et les siens sortirent en vitesse du palais et quittèrent la ville. Abomey est une île. Les Daada l'ont bâtie sur un plateau qui s'élève à 80 km de la côte basse et marécageuse, pour pouvoir assurer sa défense de tous les côtés. Une fois descendu au fond de la plaine qui l'entoure, mon père s'arrêta pour regarder derrière lui. Tout le plateau flambait, et le ciel au-dessus était pareil à une calebasse de sang. Des paquets d'étoiles tournoyaient en tourbillon dans l'air, et des étincelles explosaient tout partout. Le vacarme du feu s'accompagnait de celui du vent, qui venait de la mer, et activait les flammes comme le soufflet d'un bijoutier. À chaque fois que mon père me décrivait ces moments de cauchemar, je me mettais à pleurer. Il embrassait mes joues poisseuses et salées et me serrait contre lui en me disant « Il ne faut pas pleurer. Il faut me venger. Il faut que tous mes garçons me vengent. » Ces paroles-là me faisaient pleurer plus fort encore. On aurait dit que, prévoyant la misère de mon existence, je savais que je ne serais jamais à la hauteur de son espérance et que je ne le vengerais jamais. Après avoir vu flamber son palais, mon père resta longtemps immobile, la tête entre les mains. Respectant sa peine, les grands prêtres étaient entrés en prière et les Bokonos faisaient des divinations pour savoir ce qu'à présent l'avenir voulait cacher. Enfin, il se releva, puis, avec sa troupe de fidèles, Amazones, Bokonos, guerriers, grands prêtres, femmes, enfants, il prit le chemin de la forêt. C'est dans son ventre maternel qu'il vécut pendant près de 2 ans, à l'insu des Français, qui le traquaient comme une mauvaise bête protégée par ses gris-gris et la magie de ses Bokonos. Le cœur amer, il songeait. Il ne possédait plus rien, ni palais, ni armée, ni esclaves, ni captifs, ni argent, ni or, ni huile de palme. Pas même la couverture de chaume d'un toit au-dessus de sa tête. Plus de guerre à entreprendre, plus de victoire à gagner, toute sa chair avait fondu sur lui. Et il ne restait que les os qui faisaient grand bruit quand il se déplaçait. Ses cheveux s'étaient emmêlés, aussi longs que ceux de ses sujets, qui portaient encore le deuil de son père et déjà le sien. Ils avaient changé de couleur comme les herbes de la brousse, en temps de saison sèche. Aussi, il allait dans la noirceur auréolée d'une lumière de clair de lune. Cependant, sa haute taille ne se cassait pas, et il restait droit comme le tronc d'un hiroko. la forêt. Tout commence par là, tout finit par là. Vert sur la branche verte, un crapaud allume et éteint les phares rougeoyants de ses yeux. En bas, dans les creux des racines échasses, courent les crabes aux mordants féroces. L'ancêtre marchait, la tête à hauteur des fougères arborescentes, et son pied ne butait pas. Il luttait contre l'angoisse. Quel crime avait-il commis quand il avait succédé à son père sur le trône? Avait-il trop aimé le pouvoir et l'honneur? Ou les femmes? Peut-être était-ce quand il était enfant, ou même avant d'être planté dans le ventre de Mehutu, sa mère? Ou alors tout était-il de sa faute à elle? On disait qu'étant une princesse du pays Aja, qui par conséquent ne pouvait accoucher d'un roi, seule sa magie avait assis et gardé son fils sur le trône. On disait aussi que, par la même magie, elle avait fait disparaître un par un tous ceux qui risquaient de s'opposer à sa gloire. Vanité de tout cela. À présent, la mort qui ne met pas de sandales à ses pieds nus approchait. Dans l'eau noire de la forêt inondée, les poissons baignent ainsi que les corps morts des arbres, lourds comme des cercueils. Ce qui lui restait de sa cour se massait dans l'abri d'une clairière. Les esclaves parvenaient à faire cuire dans les trous de la terre des escargots à chair violette, des singes écorchés vifs et des plantains sauvages. Les enfants enfumaient la mousse pour recueillir le miel des abeilles et arrachaient aux branches les fruits doux de Pum Pum Ha. Parfois, étincelant, un oiseau de feu Quetzal tombait de la canopée qui verdoyait là-haut, hors d'atteinte des regards. Quand les chauves-souris commençaient à voler vers le faîte des arbres, leurs ailes funèbres grandes ouvertes, on savait que la nuit approchait. Alors, accompagné de ses musiciens, mon père entamait des cantilènes qu'il avait composées lui-même du temps qu'il était à Abomey. Il chantait la renommée qui ne dure pas, la gloire qui se ternit, la richesse qui s'effrite, et cette vie dont on ne sort pas vivant. En l'écoutant, hommes et femmes, et même petits-enfants, avaient les yeux en eau, mais le cachaient. Car si mon père s'en apercevait, il se mettait dans une grande colère. Sur quoi pleurait-il? Est-ce que tout cela n'était pas fixé par le destin? Quand mon père se rappelait la traîtrise des Français qui s'étaient mis sans raison à guerroyer contre lui, ses yeux lançaient des éclairs. Ses dents grinçaient et toute sa figure bonne, douce, paternelle devenait aussi effrayante que celle d'un sorcier qui profite sur le mal. Que voulait-il de lui? Est-ce qu'il n'avait pas honoré leur roi? De six grands pagnes tissés de fils d'or, d'un parasol de Cabécérès et de quatre enfants, deux garçons, deux filles, qu'il avait choisis lui-même parmi ceux des princesses de sang royal. Pendant les 2 années qu'il vécut dans la forêt, les animaux rendirent chaque jour hommage à mon père. Les éléphants, dont la peau grise est craquelée comme la boue d'un lac desséché, les butors tachetés, les girafes, dont la tête se balance comme un fruit au bout de sa branche, les zèbres, les gazelles d'amas, les antilopes, tous les rapaces diurnes et nocturnes, et même les lions à pelage couleur de papaye mûre, tous sortaient de leur cachette pour se prosterner devant lui. Il se rappelait qu'il était fils de l'animal roi, celui dont le feulement signifie la mort par surprise. Parfois, les grands prêtres recueillaient un peu de leur sang dans des cornes de buffle, et mon père le buvait comme une potion bienfaisante, car la vie réside dans le sang et le lait de la femme. Un matin, dès le réveil, il n'y eut pas de jour. La noirceur de l'air retentit des cris des chauves-souris en éveil. L'eau qui passait à travers la ramure tomba noire et chaude, pareille à une pluie de cendres comme si, soudain, un volcan crachait la colère de ses entrailles. Les Bokono furent pris d'inquiétude et se penchèrent sur leur plateau divinatoire. L'un d'eux se saisit d'un pangolin, le coupa en deux par le mi-temps. Sans s'occuper de son odeur nauséabonde, il scruta longuement l'en dedans de son ventre. Puis il parla tout bas, longuement, à l'oreille de mon père dont la figure prit le deuil. Ensuite, mon père se retira sous l'abri que les esclaves lui avaient dressé avec les feuilles et les jeunes branches d'un palmier. De toute la journée, on l'entendit appeler les Da'ada, et personne n'osait prononcer une parole. Après de longues heures de méditation, il quitta sa retraite, appela 5 de ses femmes, prit son fils Wanilo et la princesse Potassé par la main, et marchant droit devant lui, se rendit aux officiers français qui le guettaient au poste de Gobo. Au fur et à mesure qu'il me parlait, cependant, mon père oubliait l'amertume de ce temps-là, pour se rappeler sa paradoxale douceur. Il se demandait si ces jours-là n'avaient pas été, en réalité, les plus heureux de sa vie. Il était nu, il était léger, il n'avait plus de guerre à entreprendre, plus de victoire à gagner, seule la mort à espérer. Quand les Français arrogants et cruels mirent la main sur mon père et le traitèrent comme un prisonnier de guerre, un grand vent brûlant comme le feu descendit des déserts du nord. Il dessécha tout sur son passage, il dessécha les arbres, il dessécha les plantes, il dessécha l'eau des mares, il dessécha les animaux, il dessécha les enfants et même les fœtus dans les replis du ventre de leur mère. Il dessécha les vieillards, il n'épargna que les femmes et les hommes dans la force de l'âge, afin qu'ils puissent courir et porter la terrible nouvelle aux quatre coins de notre royaume, à ceux qui l'ignoraient encore. Sanku, la nuit est tombée. Alors, les femmes qui restaient en vie défirent les cheveux de leur tête. Les hommes laissèrent pousser les poils de leur corps. Certains écrasèrent leurs testicules avec des pierres pour ne plus enfanter, et ce fut la désolation.
Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort.
Voilà, c'était donc le 50e épisode de Les yeux ont des oreilles, en compagnie de Lydia, Emma et Nathanaël. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment sur nos ondes et vous souhaitons une belle semaine. Nous nous retrouvons très bientôt, promis, ne nous absenterons pas 2 mois durant cette fois-ci, même endroit, même heure, et n'oubliez pas que vos yeux restent à l'écoute et surtout vos oreilles.
Pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien